Bienvenue au balado « D'une langue à l'autre » de la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec. Je m'appelle Caroline Dawson, je suis québécoise d'origine chilienne, autrice et sociologue, et dans ce balado, je vais à la rencontre de personnes issues de l'immigration qui, comme moi, ont développé une belle curiosité pour le français en arrivant au Québec et qui s'en servent aujourd'hui comme levier majeur au travail. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Julio, un humain avec beaucoup d'humour, d'origine mexicaine, mais qui se définit plutôt comme un Mexicois, puisqu'il est au Québec depuis plus de 15 ans. Après avoir étudié le droit dans son pays d'origine, c'est l'amour qui le transporte au Québec. Il se rend vite compte que parler français lui permet d'exercer ses droits comme citoyen et comme travailleur. C'est devenu pour lui une mission que de faciliter l'accès à l'apprentissage du français pour les travailleurs et travailleuses dans le secteur agricole. Bonjour Julio.
Bonjour Caroline.
Est-ce que tu pourrais te présenter, donc ton âge, depuis combien de temps tu es ici, ton groupe sanguin?
Mon groupe sanguin, je ne le connais pas malheureusement, mais ma mère, il faudrait que je l'appelle. Mais mon nom c'est Julio Lara, en fait je suis au Québec depuis il y a 15 ans. Puis j'ai 45 ans. Donc, moi je suis un guacamole. Moi, je m'auto-définis comme un guacamole. J'étais avocat au Mexique, mais ici, j'ai fini comme une espèce de chose bizarre de représentation des droits de travailleurs. Puis je suis permanent syndical.
Combien de langues tu parles, Julio?
Moi, je parle trois langues.
Lesquelles?
Ben, je parle espagnol, comme vous pouvez l'écouter dans mon accent jalapeño picante, anglais puis français.
Qu'est-ce qui vous a amené au Québec? Pourquoi êtes-vous venu au Québec?
Ben, les belles Québécoises, hein, c'est quand même la gloire et la perdition. Mais sinon, c'est ça, j'étais parrainé, mais j'ai trouvé une copine au Mexique à un moment donné, on a eu une relation à distance. Puis à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que c'était quand même assez difficile de faire descendre un Canadien dans mon pays qui est comme assez plein de problématiques socio-économiques. Ben, on a décidé que j'allais venir la rejoindre d'ici.
Et est-ce que vous parliez français avant de venir ici?
Non.
Donc, c'est à votre arrivée que vous avez dû apprendre le français?
Oui.
Et comment vous avez appris le français au début, à tout le moins?
Il y avait un bon cours d'initiation au français qui m'a donné un français fonctionnel pour ensuite pouvoir comme avoir accès à certains postes de travail. Puis par la suite, j'ai pris quelques cours un petit peu plus techniques pour écrire à l'Université de Montréal. Mais ma base, c'était dans un centre communautaire.
Est-ce que tu peux me parler davantage de comment tu t'exprimais au début? Quand on arrive, mettons, dans un nouveau pays, on ne parle pas la langue. Les premiers jours, la première semaine ou la première fois que tu vas à l'épicerie, tu sais, comment tu faisais pour te faire comprendre?
Mais c'est dans mon temps, il n'y avait pas encore le téléphone intelligent. Donc, j'ai passé par tous les langages qui existent possibles, mais surtout celui des signes. C'est que ça soit par pointé, que ça soit en couleur, que ça soit comme essayer de le dire en anglais ou même en espagnol. Des fois, il y en avait des gentilles personnes qui venaient me faire la traduction. Au début, c'était quand même assez pénible. Tu sais, comme, des fois, je ne comprenais rien. Juste me procurer un billet pour le métro. Ouais. C'est, la première fois, c'était toute une affaire. Là, parce que d'abord, je ne comprenais pas. La première fois que j'ai essayé de rentrer dans le métro, qu'ils m'ont dit que je pouvais rentrer avec mon vélo, j'ai compris qu'ils me disaient « va-t'en au bout », mais je n'étais pas dans les bons bouts. Donc, à un moment donné, ils m'ont fait descendre pour m'en aller à la tête du métro. Donc, c'est comme essai-erreur aussi, beaucoup. Hein.
Ouais.
C'est langage des signes, espagnol, anglais.
Et comment les gens réagissaient en général?
La première fois que j'étais venu visiter, je m'en souviens, une madame, j'avais ma carte de centre-ville, et la madame m'a pris de la main avec ma carte, puis il m'a amené à la place.
Oh, wow.
Je voulais aller visiter Notre-Dame. Je trouvais ça comme... Quoi de plus d'accueillant tu peux avoir que ça, là, tu sais?
Ouais.
Pas seulement me dire par là, mais il m'a pris de la main puis il m'a amené comme un petit bébé là.
Et là, vous étiez plein de gratitude à l'église.
Ouais, oui. J'étais allé prier. Le temps que c'était gratuit.
Est-ce que l'humour a joué un rôle dans ou a facilité votre intégration?
Mais moi, je pense que oui. J'essaie toujours de rire parce que c'est... j'ai beaucoup déjà de stress par nature dans mon travail. Donc, je pense que l'humour en soi, en général, dans la vie, c'est très positif.
Et comment c'était les cours de francisation? Est-ce que c'était d'autres immigrants surtout?
Oui, ouais. On était tous d'immigrants. Moi, j'étais assez surpris de voir qu'il y avait des mondes de partout, en fait, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique même. Puis c'était très, très, très intéressant parce que c'est là que ça a commencé le mélange de la multiculturalité. Puis c'était spécial de rencontrer tout ce monde-là, toute cette diversité, en fait.
Est-ce que vous arriviez à vous faire des amis francophones au début ou vous restiez plutôt dans la communauté hispanophone?
C'est plus dans les cours de francisation que je commençais à développer certaines amitiés. En fait, mon premier ami canadien, c'est un gars de la Colombie-Britannique qui allait au cours de français. Pour moi, lui aussi était comme un immigrant canadien, mais oui. Il a migré au Québec.
Oui, oui, mais il fallait qu'il apprenne le français quand même, là, comme vous.
Oui, 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 ouais. Oui, exactement.
Puis votre motivation à apprendre le français, c'était quoi?
Je travaillais comme technicien en photo dans une pharmaprix. Puis, je comprends, j'ai un fort accent hispanique. En fait, c'est comme si je parlais en espagnol. Là, je ne faisais aucune attention à essayer de faire une prononciation un peu améliorée. Donc, je pense que ma motivation, c'était vraiment de pouvoir se communiquer avec le monde.
Ouais. Ça vous a pris combien de temps à apprendre le français?
Pour avoir une conversation, minimalement, ça m'a pris 3 ans.
OK.
J'étais fonctionnel dans ma première année, mais il est certain que des fois, il fallait que je saute à l'anglais pour pouvoir me faire comprendre.
Est-ce qu'avec votre conjointe, vous avez pu pratiquer un peu ou pas?
Oui, elle m'a beaucoup développé. Elle m'a expliqué les nuances entre certaines voyelles, entre certaines consonantes aussi, comme bis et vis. C'est au début, moi, au Mexique, on dit avion. Ouais. C'est au lieu de dire avion, donc le monde, des fois, il ne me comprenait pas pantoute. Puis là, il m'expliquait le pourquoi de la chose.
Ouais.
Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi à pouvoir avancer dans ma amélioration de la langue.
Qu'est-ce que vous diriez qui a été le plus difficile pour vous dans votre apprentissage de la langue?
Mais moi, je pense que c'est encore cette partie de gêne.
Ouais.
C'est qu'au début, moi-même, j'étais comme « ouf », je sentais comment je cassais les oreilles du monde. Donc, c'était comme avoir peur de m'exprimer à cause de faire une faute, de faire une erreur. Donc, ça, c'était la partie très, très, très difficile. Là, je me suis mis à parler avec les enfants. Là, j'ai compris qu'avec eux, je n'avais comme pas de gêne. Ils me disaient comme « ah, c'est vrai que tu parles drôle », tu sais, des commentaires plus, plus chouettes que quelqu'un qui te dit que tu les casses les oreilles. Donc, j'essaie de m'améliorer un peu en lisant en voix haute ou des choses comme ça, mais j'ai mon accent, puis c'est ça.
Puis un accent, c'est un signe de courage, hein?
Ben oui, à un moment donné.
C'est ça, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont osé partir et apprendre une nouvelle langue. Donc, c'est ça, un accent.
T'sais. Bon, ben merci.
C'est vrai que c'est dur
ouais.
De passer de l'autre côté de la gêne, là.
Oui, ça, c'était la partie, je pense, la plus difficile pour moi, là.
Oui. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez, dans votre intégration, vous aviez envie de baisser les bras ou vous trouviez ça trop difficile?
Et ça m'est arrivé que je disais, mais là, qu'est-ce que je fous ici, là? T'sais, je pourrais juste m'en aller chez nous puis continuer ma vie tranquillement puis, tu sais, avoir toutes les choses que j'aime parce que je suis quand même un passionné de mon pays. J'aime tout ce qui frappe au soleil là-bas.
Mm.
Mais... Ben, nous, au Mexique, on est tellement assez proches dans la famille. Puis ma fille, c'était comme l'espèce de magnet qui m'a toujours retenu, au moins les premiers 6 ans au Québec.
Ouais.
Mais après, comme c'est ça ce que je pensais. Moi, si je quitte, évidemment, ma fille étant si petite ne pourra pas me suivre. Puis c'est pas vrai que j'amenais quelqu'un au monde pour ne pas partager ma vie avec.
Ouais.
Puis par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme actuelle.
Ouais.
Donc, on a formé une nouvelle famille, on a développé des projets. Puis là, peu à peu, j'ai commencé à payer beaucoup plus d'impôts, à acheter des maisons, puis etc., la vie d'ici. Donc, au point qu'aujourd'hui, je me considère comme un Mexicois. Moi, je me définis en général comme un Mexicois parce que je vais toujours rester Mexicain. Là. Ça, c'est comme ma base solide. J'étais né là-bas, j'étais comme élevé là-bas. Mais là, à ce temps, après 15 ans d'échanges avec Québec, je peux me dire que j'ai un petit peu du Québec dans moi.
Est-ce que vous avez des trucs pour que les gens s'intègrent pour mieux comprendre le français ou parler le français?
Mais moi, je pense que c'est toujours très bien d'aller te chercher un ami québécois. Moi, j'habite dans la Rive-Sud, dans une village qui s'appelle Sainte-Clotilde. Puis il y en a toujours des petits messieurs qui veulent parler, là, tu sais, des messieurs dans l'âge d'or ou des madames dans l'âge d'or, qui ils sont même prêts pour t'aider à développer ton accent, ton français, tes connaissances sur le Québec. Des fois, il s'agit juste d'aller comme échanger avec eux, c'est comme se rendre service ensemble, parce que ceux ils veulent comme vraiment avoir quelqu'un pour juste jasser.
Ouais.
Puis des fois, juste en jassant avec eux, tu peux développer plus ta langue. Évidemment, si tu as d'autres amis ici au Québec, le travail aussi, ça, c'était une bonne source d'intégration, parce que là, c'était l'immersion totale qu'il fallait que j'éduque mon oreille et ma langue. Mais sauf que là, c'est comme forcé. Tandis que si tu es dans une ambiance d'amitié, tu te sens plus libre de rentrer dans des petits coins d'erreur que la personne peut-être va te ramener pour améliorer et développer plus ta langue.
Oui. Et est-ce que votre niveau de français ou votre accent est encore un facteur qui peut vous nuire dans votre emploi, par exemple?
À l'écrit, je pourrais te dire que oui.
Mm.
Professionnellement, ça serait plus dans le sens écrit. Et de nos jours, moi, je travaille beaucoup avec la communauté de travailleurs agricoles, donc c'est, la moitié de mon travail se passe en espagnol.
Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les travailleurs agricoles sont surtout hispanophones.
Oui, exactement.
Et en quoi consiste votre travail exactement?
Mais moi, je fais la représentation syndicale et la négociation des contrats collectifs. Donc au début, je faisais le recrutement des travailleurs. Par la suite, ils m'ont engagé, embauché comme permanent. Puis un jour, je me suis ramassé à faire moi-même la négociation. Puis on a essayé même dans leur convention de rentrer des clauses de francisation. De nos jours, ils ont débloqué au gouvernement des subventions pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc je trouve que c'était aussi un facteur de base pour la défense de leurs droits. T'sais, on est tous là, on essaie tous d'avancer ensemble en tant que société. Il y en a beaucoup de monde de partout qui arrive au Québec. Puis moi, la première chose que je demande à tout employeur qui va amener des travailleurs étrangers temporaires, c'est qu'il ne parle pas français, tu vas trouver la façon de le faire parler français.
Ouais.
Que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit dans une école, mais tout me trouble la façon que cette personne-là qui vient du Congo puisse communiquer avec le reste de la gang.
Ouais.
Parce que ce n'est pas vrai qu'à cause de la langue, on va recommencer à se fractionner, surtout dans les mouvements de solidarité dans lesquels on développe des avancements. Puis de côté employeur aussi, ça marche, parce que des fois, les employeurs y arrivaient, puis ils donnaient des consignes, tout le monde disait « oui, oui, patron, si, no problema », mais à la fin, il n'y avait rien compris.
Ouais.
Puis je disais comme ça, on a les problèmes de deux côtés, là.
Wow.
C'est tant ils ne vont pas te comprendre, puis tant aussi, ils ne pourront pas te dire quand il y a un malaise.
Oui, oui, wow, c'est génial. Et qu'est-ce que vous dites à vos collègues qui travaillent et qui se découragent en essayant d'apprendre le français?
Ben, moi, je leur dis de se déjeuner. C'est parce que plus que tu essaies de t'isoler puis t'ostraciser dans ta langue puis ne pas pratiquer la langue française, plus difficile que ça va être de la développer. La pire chose, je pense, pour moi, ou peut-être pour plusieurs hispaniques, c'est l'accent, c'est la prononciation. C'est ça m'arrive encore qu'il y a du monde que j'essaie de parler. Juste hier soir, dans un dépanneur à Pont-Rouge, je ne sais pas où, là, j'essaie de demander au gars, « T'as-tu du vin blanc ?» Puis il ne me comprenait pas, comprenne plus en anglais.
Ah là là.
Donc, moi, je ne me suis jamais découragé. J'essayais de forcer mon accent. Mais de l'autre côté aussi, je demande comme à l'écouteur de développer sa patience. Comme je t'ai dit, il y a certaines personnes que juste les changements d'accent, oups, il y a comme une espèce de fermeture que là, je ne comprends plus rien de ce qu'il dit, lui. Mais finalement, quand il commence à se calmer, il se rend compte que je suis en train de parler en français aussi.
Ouais.
Donc j'essaie, en me promenant dans la province, de comme éduquer les oreilles du monde, même si en les éduquant, on les casse, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Ça fait partie de la diversité linguistique à ce temps.
Et Julio, à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que le français va main à main avec la défense des droits des travailleurs?
Quand tu ne peux pas te défendre de façon verbale d'une attaque, et c'est très comme frustrant.
Mm.
Donc, je pense que j'ai commencé pour tu sais, des fois, il y avait du monde qui me criait des affaires, je comprenais zéro, là, tu sais. Donc, à un moment donné, je compris que pour avoir une discussion ou pour pouvoir me défendre, il fallait que je puisse parler la langue pour le faire comprendre. Juste le fait de parler français, ça me mettait dans une position privilégiée pour me défendre.
Mm.
Donc là, par la suite, j'ai compris que bon, tu veux te défendre de quelque chose, il faut que tu puisses t'exprimer. Tu veux exercer un droit, puis tu ne peux pas le comprendre, tu restes dans l'ignorance. Donc, le fait de pouvoir les comprendre pour pouvoir t'exprimer, c'est la première base pour pouvoir exercer un droit. Si tu ne peux pas, tu restes dans l'ignorance. La barrière de langue, il faut la casser. Puis que c'est la première étape aussi, pas seulement pour l'exercice des droits, mais pour l'intégration dans la société. Parce qu'une fois que tu peux comme avoir des discussions, tu peux échanger. Puis les Québécois ici sont bien revendicateurs. So, il va y avoir toujours quelqu'un qui va aller te dire « Ah non, t'as droit à ci, puis t'as droit à ça. » Puis si tu comprends le français, tu vas comprendre tes droits.
Vous avez dit qu'au Mexique, vous étiez un avocat qui s'est transformé en guacamole en arrivant au Québec. Comment tout ça s'est mélangé dans votre travail, le français, puis vos études en droit?
Mais en fait, je pense que c'est vraiment au Centre de soutien aux travailleurs agricoles qu'on a commencé pour donner des cours de français.
Aha.
C'est nous, on voyait qu'il y avait un besoin parce que la problématique avec les travailleurs, c'est déjà l'isolement. C'est nous, on voyait à Saint-Rémy, il y a 15 ans, que tout le monde avait comme peur des Mexicains et des Guatémaltèques, mais finalement, en même temps, ils disaient, mais là, ils semblent d'être du monde gentil, mais il y avait toujours la barrière des langues.
Ouais.
Donc, au Centre de soutien, on a commencé pour... donner des petits cours de francisation de base, en fait, avec le même manuel que j'avais suivi au centre communautaire. Puis par la suite, en faisant aussi des services pour l'accès ou l'exercice des droits de ces travailleurs-là, on s'est rendu compte que le meilleur outil pour eux, c'était vraiment la langue aussi. Parce que, tu sais, en autant que tu ne peux pas dire à ton patron ou à quelqu'un « Arrête de marceler », t'as comme pas fait la première étape pour pouvoir faire une plainte.
Ouais.
Donc, si tu n'es pas capable de dire à ton superviseur que tu viens d'avoir un accident de travail, puis là, tu as des répercussions 6 mois après, mais fort probablement, tu pourras plus exercer ton droit à avoir une réclamation à la CNESST à cause que tu n'as pas comblé cette partie-là de juste informer ton employeur de la problématique. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à faire les liens. Que, tu sais, la barrière de langue, c'est très, très, très important.
Oh oui, c'est vrai que c'est absolument fondamental. C'est la première étape avant toute chose même.
Exactement. Ouais. Puis ça donnait des fruits. Là. Tu sais, par la suite, j'ai vu certains gars qui ont comme assez bien développé leur français fonctionnel, on va dire, qui ont développé des compétences, disons, de gérance.
Ouais.
Tu sais, les employeurs, ils se sont rendus compte, ah, mais lui, tu sais, je peux l'utiliser comme interprète. Ah, mais maintenant, je peux lui donner les consignes pour qu'il transfère les consignes.
Ouais.
Donc, ils ont quand même réussi à avoir certains postes de plus de responsabilité.
Ah, oh, c'est bien, vraiment. Et tout ça a été développé à travers le syndicat, si je comprends bien.
Oui, absolument. C'est le syndicat qui finançait en fait tout ce centre de soutien et de défense des travailleurs agricoles. Mais là, de nos jours, je sais que le gouvernement s'est beaucoup impliqué puis qu'il y en a beaucoup plus de fonds pour avoir plus d'organismes puis pour essayer d'avoir une meilleure intégration.
Oui, mais ça, c'est dû aux luttes antérieures aussi.
Oui, c'est du travail. Ouais. Il y avait du chemin à défricher.
Oui, donc vous avez contribué avec tout ça à vraiment l'intégration de d'autres personnes, là, finalement.
Je pense que c'est la langue, c'est la base. T'sais, nous, on peut se comprendre puis avoir une belle discussion ensemble à cause qu'on parle la même langue. Là. Pour moi, ça a toujours été comme une petite clé qui t'ouvre la porte pour toute une société.
Oui, oui. Mais au-delà de ça, quand vous parlez des droits syndicaux, ou juste des droits fondamentaux, là, c'est-à-dire d'être capable de dire « je suis blessé pour avoir accès à des compensations », c'est fou à quel point ça prend une langue ou ça prend un interprète ou ça prend quelqu'un. La langue, il faut qu'elle soit là, sinon c'est impossible.
Non, c'est des bases. Ouais. Un autre exemple clair, c'était comme l'accès aux services médicaux. Des fois, les gars, il y allait problème de maux d'estomac. Mais ils ne se comprenaient pas avec le triage,
ouais.
Mais ils donnaient des affaires pour la tête.
Oh là là.
Puis là, ils les renvoyaient la tête parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer, il n'y avait pas les moyens. Donc, nous, on mettait aussi dans notre petit cours, on a même développé une espèce de manuel que tu le lis en espagnol, puis ça fait en sorte que comme si tu prononçais en français.
Ouais, ouais.
Puis là, avait une note avec toutes les parties du corps, au moins pour que les gars puissent dire, tu sais, poignet, tête.
Ouais, ouais.
Parce que tout ça, avant...
Ça
non, ils ne savaient pas, là.
Oui, j'imagine qu'il peut même y avoir des malentendus avec les habitants de la région quand on est un travailleur agricole dans une petite municipalité francophone.
Oui, c'est comme les interventions policières aussi. Moi, à maintes reprises, j'étais appelé à intervenir pour faire la traduction et même la médiation entre des policiers. Je vais te donner un exemple. Il y a un cas, ça m'a choqué beaucoup, c'était un travailleur mexicain qui avait rempli toutes ses sous dans un petit sac en plastique de supermarché. Mmh. Puis là, vu qu'il partait, il voulait donner ça comme un enfant pour qu'il le dépense. Mais Les enfants, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire, ils ont pensé que c'était un pédophile et qu'ils voulaient l'harceler. Donc moi, quand ils m'ont appelé, les gars, ils avaient été arrêtés par la police sous la présomption qu'ils étaient comme en train d'harceler des enfants.
Oh là
puis
là.
Quand moi, j'étais comme m'approcher pour le poser la question, ils me disaient, moi, la seule affaire que je voulais, c'était le donner à un enfant pour qu'il aille le dépenser. Parce que quand il est arrivé au dépanneur, le monsieur du dépanneur, il avait dit, si tu ne l'amènes pas dans les petits tubes spécifiquement faits pour ça, je ne peux pas t'accepter de ça faire. Mais il n'avait même pas compris ça, les gars. Là, donc, c'est un méchant malentendu.
Oh oui, absolument, qui aurait pu avoir des conséquences très graves sur la vie de quelqu'un. Est-ce que vous avez des exemples d'aide aux travailleurs où vous avez pu, par la langue, leur faire accéder à certains droits ou à certains privilèges?
Je pense que c'était plus par la voie de l'accompagnement. Mais à un moment donné, il y avait la loi qui stipulait que pour les logements dans une place qui appartient à l'employeur, tu pouvais payer juste 20 $ par semaine. Puis là, les recruteurs ainsi que le patronat, ils avaient décidé qu'ils allaient monter ça jusqu'à 55 $ parce que là, ça coûte cher, les gars, les loger, puis ça ici, puis ça. Évidemment, tous les gars, ils étaient dans l'ignorance totale parce qu'ils, ils vont pas comprendre la loi. Donc, cette fois-là, on a juste comme traduit à toute la gang de travailleurs agricoles saisonniers qui avait cette problématique parce qu'aux autres, les employeurs étaient prêts à leur informer en espagnol. Mais là, on les informait comme c'était quoi la traduction du chapitre de règlement en question de loi sur le nombre de travail. Puis on a réussi à faire un petit mouvement qu'on a déposé autour de 800, entre 800 et 1000 plaintes à la commission de normes du travail pour que tout ce monde-là soit remboursé. Évidemment, c'est la politique étant ce qu'elle est. Et on a réussi à faire rembourser toutes ces gangs-là, mais en même temps, mais les gouvernements puis les lobbying, ils ont changé la loi. Mais moi, je pense que c'est une belle réussite juste pour que le monde puisse savoir sortir de l'ignorance puis réclamer un droit qui les appartenait.
Oui, et se rendre compte qu'il leur faut la langue française pour pouvoir accéder à ça.
Oui, absolument. Il faut. Puis, mais c'est malheureusement aussi dans les secteurs en question, on a aussi la problématique liée à l'analphabétisme. Mais il y en a plusieurs même qui, s'ils ne savent pas lire ou écrire, ils réussissent à s'exprimer un petit peu en français, ce que je trouve comme assez surprenant. Puis ils sont toujours bien fiers de pouvoir quand même juste aller faire l'épicerie tout seul.
Ouais.
C'est déjà, je pense, une réussite pour certains travailleurs migrants.
Absolument.
T'sais, malheureusement, notre langue, si bien un peu comme quand même un être humain, c'est-à-dire des petits signes, mais des fois, il n'y a pas assez de signes pour pouvoir exprimer les sentiments qu'on vit.
Ouais.
Donc, il n'y a rien de mieux que la langue.
Est-ce que vous, Julio, dans le cadre de votre métier, vous avez pu vous-même bénéficier de l'apprentissage de la langue française pour vos propres droits?
Ben, oui, à un moment donné, quand j'ai travaillé comme technicien de photo, il y avait une madame qui ne m'aimait juste pas, puis en fait, il s'est manqué beaucoup de mon accent. Donc, un jour, j'ai compris dans le chapitre de mes droits que c'était un petit peu de la discrimination. Dans le temps, il n'existait même pas comme l'harcèlement psychologique contenu dans la loi. Mais je compris que c'était de la discrimination. Donc, grâce à que j'ai parlé déjà mon français fonctionnel, j'ai pu aller m'exprimer avec la superviseuse qui a fait une enquête puis a pu arrêter les agissements vexatoires à mon égard. Ça m'a donné un répit de ne pas me sentir comme oppressé.
Après ça, c'est comme la fierté de « Haha, madame, vous ne pouvez plus continuer à faire ça. »
Absolument.
Pas juste à moi, à n'importe qui.
Ben, c'est ça. J'espérais que par la suite, il arrêterait comme avec n'importe qui d'autre qui pouvait arriver à cet emploi-là puis avoir le même traitement.
Moi, j'ai toujours pensé que la défense des droits d'une personne s'étire à la défense de beaucoup de gens, tu sais, sans qu'on s'en rende compte.
C'est ça ce que je dis à nos membres assez souvent. Je dis comme « exercez vos droits ». Parce que quand vous arrêtez de l'exercer, si on fait une demande dans la convention collective puis personne ne l'exerce son droit, la prochaine fois qu'on va négocier, l'employeur va venir nous dire « mais là, tu veux ça pourquoi si personne ne l'utilise ?» Donc, il faut quand même aller exercer nos droits. Puis même si une personne le fait, il laisse la porte ouverte pour que toute la collectivité qui sont à l'arrière de lui puisse, comme tu disais, continuer à le faire. Donc, non, ouais. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, Caroline.
Ouais. Et ça peut inspirer d'autres aussi à le faire,
oui.
À se rendre compte que ce n'est pas si difficile. Parce que des fois, ça semble très bureaucratique ou une montagne, mais quand quelqu'un le fait, on dit « Oh, comment t'as fait ça? » Ouais.
Non, tout à fait. Moi, je les appelle comme les points de flèche. S'il y en a un qui traversent, le petit fait un petit trou, puis il va en avoir un autre. Puis à un moment donné, il y a comme un effet d'entraînement dans lequel tout le monde veut comme le faire, puis exercer ses droits, puis là, il se sent plus fort. Puis ben là, je pense que des fois, à l'autre qui ne sait pas, quand on l'informe, c'est là la solidarité de lui dire, tu sais, tu as ces droits-là, va le demander, exerce-les. Mais la langue est de base. C'est, honnêtement, si tu ne peux pas t'exprimer, c'est là on a un problème.
Est-ce que vos enfants parlent français avec l'accent québécois?
Oui, absolument.
Et entre eux, est-ce qu'ils parlent français ou ils parlent espagnol?
Ils parlent français aussi.
Et est-ce que vous, vous leur parlez en espagnol?
Moi, je leur parle en espagnol, mais ils me répondent la plupart du temps en français. Des fois, on parle en anglais aussi.
Ouais.
Donc, on parle un petit peu de trois, là, mais moi, j'essaie aussi de s'embrimer l'espagnol pour qu'ils puissent aller au Mexique tout seul.
Oui. Et est-ce qu'ils vous corrigent, vous, vos enfants?
Ben oui. De temps à autre, oui, certaines choses, ils me corrigent encore. Mais des fois, moi aussi, j'ai quand même développé assez pour leur dire « Ah non, non, t'as fait une faute d'orthographe. » Puis on ne prononce pas ça comme ça.
Ah,
puis la ma blonde nous corrige tout le monde après.
Vous aviez tous tort.
C'est ça.
Mais vous, vous pouvez les corriger en espagnol au moins.
C'est ça, là, je peux.
Exact. Est-ce que parfois, vous auriez voulu, je ne sais pas, effacer votre couleur de peau ou effacer votre accent ou, tu sais, pour fitter dans le moule, comme on dit.
Ben, des fois, ça m'arrivait, mais moi, je pense que c'est mon petit grain de sable que j'ajoute à chaque fois, de dire au monde, « Ah, t'aimes pas ça, le Mexique? Mais bien, je vais te faire manger des tacos, je vais te montrer un petit peu ma culture. J'adore la poutine, passe-moi le tabasco, donne-moi un tortilla, je me fais des tacos de poutine, délicieux. » Puis qu'on partage, là. Tu sais, la bouffe, ça comme ressemble tout le temps. Donc moi, quand je voulais comme le mettre ensemble, on se faisait des gros barbecues. Puis c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Des fois, ça sentait bon parce que nous, on met des épices, puis ça. Puis il y avait des Québécois qui venaient, puis oh, ouais, ils mangent, puis goûtent, puis tout le monde aimait. Puis des fois, parmi la gang, disons à Saint-Rémy, il y en a certains Québécois qui ont commencé à développer plus de relations avec certains travailleurs migrants. Puis des fois, nous aussi, ils voulaient leur montrer le Québec. Ah, c'est trop bien, je vais t'aller faire connaître Montréal, puis on va aller faire un tour ici, puis là. Puis je trouvais ça génial.
Ben oui, absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que vous avez réussi à vous intégrer? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a des choses à faire pour y arriver encore?
Mais moi, personnellement, je pense que j'ai réussi à m'intégrer, oui, mais surtout avec aussi une dynamique beaucoup plus, disons, diverse. Parce qu'à la fin, si je compte parmi mes 10 amis, je pense que j'en ai juste 3 du Québec. Mais où je me sens beaucoup plus que j'ai réussi mon intégration, c'est quand j'ai fait mon service dans mon travail, que j'arrive dans des unités à forte présence de Québécois, puis qui sont prêts à m'accepter. Donc, à date, moi, je pense que je me sens bien à l'aise.
En tout cas, moi, je voulais te dire bravo pour ton travail.
Ben, merci.
C'est magnifique ce que tu fais, vraiment.
Ben, moi, je veux te dire bravo pour être là, puis me faire une entrevue. Merci beaucoup, Caroline.
Merci infiniment, Julio.
Ça me fait beaucoup plaisir, Caroline.
Quel personnage attachant et drôle, ce Julio. Assurément, l'humour a dû faciliter sa rencontre avec les Québécois et Québécoises. Ce qui est particulièrement intéressant dans le parcours de Julio, c'est que sa motivation à apprendre la langue s'est naturellement liée à sa passion pour le droit. Ça a facilité son intégration et, par ricochet, celle de plusieurs travailleurs et travailleuses agricoles. Il y a des rencontres inspirantes comme ça qui nous donnent de l'espoir pour la suite. Dans le prochain épisode, on va à la rencontre de deux femmes qui n'ont pas eu peur de monter les échelons pour ensuite aider les autres à y parvenir. D'une langue à l'autre est un balado de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec dans le cadre de la campagne « Travailler en français au Québec, c'est un droit ». Une production de Casadel Film. Animation, Caroline Dawson. Réalisation, montage et mixage, Christian David. Productrice, Camille Lavallée-Prairie et Marie-Jeanne Englehart. Coordonnatrice de production, Ariane Lheureux. D'une langue à l'autre a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de la langue française du gouvernement du Québec.